Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine, le vendredi soir et le samedi soir, pour Kabbalat Shabbat, ou Mélève et Malka, on appelle ça comme on veut, mais pour une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Ravéli Lemel. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Shabbat Shalom, si les gens nous écoutent le vendredi, et Shavua Tov, si c'est samedi. Ravéli Lemel, on fait comme chaque semaine avec vous, on survole notre paracha de la semaine, et là on arrive à Chaye Sara. Chaye Sara qui commence par une expression qui a énormément été commentée au fil des années et au fil des siècles, c'est que Sara est décédée à l'âge de 127 ans, et il n'est pas marqué qu'elle est décédée à l'âge de 127 ans, mais à l'âge de 100 et de 20 et de 7 ans. Et bien sûr que ça veut dire quelque chose et qu'on va encore avoir des trésors de réflexion de nos maîtres et de nos sages sur cette cette chose, et il se trouve que c'est sur ça que vous voulez intervenir ce soir, Rav Lemel.
Exact, exact, tout à fait. Tout le monde connaît en effet ce premier verset, « Vayu chaya Sara » et « Lévi de Sara fur ». D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un pluriel, « Me'ashana 100 ans, 20 ans et 7 ans ». Intéressant de voir pourquoi 100 ans, 20 ans et 7 ans. Rachid, bien sûr, s'interroge là-dessus, et Rachid donne une explication qui est... que tout le monde, enfin que beaucoup de personnes connaissent, il dit, eh bien parce que tout simplement, Sara est belle à 20 ans comme à 7 ans, et n'a pas fait de faute à 100 ans comme à 20 ans. Bon, c'est le commentaire de Rachid est très beau, je vais essayer de partager avec vous un second commentaire dans un second temps, du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais si on réfléchit, et j'ai vu cette interrogation dans un commentateur beaucoup plus récent, il dit, mais au fond, réfléchissons un instant, c'est vrai qu'une petite fille de 7 ans, c'est une mignonne petite fille, comme dirait l'autre, mais la beauté féminine, c'est à 20 ans. Alors ça peut être 18, ça peut être 35 aussi, mais disons que c'est quand la petite fille est devenue femme, et d'ailleurs il rapporte ce midrash qui dit que Adam et Chava, Adam et Ève, eh bien, lorsqu'ils apparaissent dans l'univers, ils ont l'âge de 20 ans, c'est-à-dire qu'ils sont dans la plénitude du jeune homme, de la jeune fille, de tout ce que ça représente. Et donc, évidemment, il s'interroge, il dit, mais concrètement, en plus, ce n'est pas le même type de beauté. Et pourtant, Rachid nous dit, belle à 20 ans comme à 7 ans. L'ouverture qui est proposée me semble ici passionnante. Il dit tout simplement, à 7 ans, une petite fille est belle, mais pour elle, la beauté, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ça n'a pas d'incidence, ce n'est pas le vecteur de séduction, ce n'est pas quelque chose qui représente une valeur en tant que telle. On dit « Oh, t'es toute mignonne » et puis ça s'arrête là. Eh bien, ce commentateur, au fond, nous ouvre à l'idée que Sara, sa construction intérieure, faisait que lorsqu'elle est devenue jeune femme, eh bien, le rapport qu'elle avait à la beauté était le même que pourrait avoir une petite fille. C'est-à-dire que c'est une réalité qui était présente, mais qui n'induisait rien, qui n'était pas nécessairement le vecteur de quelque chose d'autre. Et au fond, c'est ce qui fait qu'après, à 100 ans, elle est au niveau des fautes comme quand elle était à 20 ans, c'est-à-dire qu'elle avait un rapport extrêmement sain aux choses, et c'est la raison pour laquelle, en effet, eh bien, on met cela en exergue. C'est vrai que cette idée-là me semble absolument passionnante, parce que, surtout aujourd'hui, dans un monde dans lequel on demande aux gens d'être à 7 ans comme à 20 ans, c'est-à-dire, je vais, dans un commentaire de Torah, faire émerger Snapchat et autres... type de sites qui sont là, dans lesquels eh bien, on cherche à construire de soi une image très très tôt qui ne correspond pas à notre réalité. Et ce commentaire, au fond, rejoint l'idée que développe le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et que j'affectionne beaucoup parce qu'elle nous interpelle et elle est très très en phase avec les réalités du monde dans lequel nous sommes confrontés. Il dit, au fond, 100 ans, 20 ans, 7 ans, ce sont trois époques de vie. 7 ans, c'est l'enfance. 20 ans, c'est l'époque de la jeunesse insouciante, dans laquelle l'enjeu de la féminité, de ce qu'on va faire, de comment est-ce qu'on est vu, n'est pas nécessairement présent. Et après, 100 ans, c'est l'âge de la femme, c'est l'âge, si c'était un homme, de l'homme, dans la pleine dimension du terme. Et au fond, ce qui fait la grandeur de Sara, c'est justement ça. C'est-à-dire que elle a su parfaitement distinguer les différentes époques de sa vie. Elle les a vécues pleinement. Lorsqu'elle était enfant, elle était enfant. Elle n'était pas dans une projection de quelque chose qu'elle ne pouvait être à ce moment-là. Et on va dire que dans la période 100 ans, eh bien, il n'y a pas eu de désir de régression et de se retrouver encore jeune fille. Et il y a, dit ici Rafim Shand Raphaël Hirsch, la clé au fond de ce qui fait qu'une vie est pleine et entière. C'est-à-dire que chacune des époques de la vie est identifiée dans ce qu'elle doit être, dans ce qu'on doit y vivre, et en quoi elle doit participer à terme à la construction globale de l'être. Aujourd'hui, la plupart du temps, les dysfonctionnements que l'on retrouve, c'est parce qu'il y a ce que j'appellerais une forme d'erreur de timing. On va peinturer les doigts des petites filles, n'est-ce pas, pour reprendre les expressions des enfants. On va leur demander d'être petites femmes alors que ce n'est pas le moment. Et puis, on va mettre des enjeux de couple à un âge dans lequel ce n'est pas encore nécessairement l'enjeu nécessaire. Et puis, après, on veut repartir en arrière. Et tout ça, au fond, ça fait, comme on dit un peu légèrement, un grand balagan. Ça, tout est mélangé et on ne sait plus véritablement où on se trouve. Sarah, c'est celle qui, justement, à travers cela, va devenir cette femme dont on dit qu'elle fait quand même partie des cinq femmes les plus belles que l'univers ait portées. Et surtout, elle a un niveau de Ruach HaKodesh, elle a un niveau d'Esprit Saint qui est au-delà de son mari Abraham, c'est-à-dire de quelqu'un qui véritablement est arrivé à la plénitude de tout ce qu'elle pouvait être dans l'existence, mais justement nous dit Chayé, c'est son dévi, c'est-à-dire qu'il y a ici une globalité mais qui a été fragmentée de manière intelligente. À partir de cela, évidemment, on peut comprendre un petit peu ce que le verset nous dit par la suite, puisque lorsque Abraham va accompagner Sarah à sa dernière demeure, le texte nous dit qu'Abraham va d'abord faire son oraison funèbre et puis après il la pleure. Ce qui est curieux parce que normalement on aurait pu imaginer que d'abord on pleure, il y a les émotions, il y a la souffrance, et évidemment le reste, eh bien, c'est l'univers des émotions qui est présent, mais lorsqu'on est dans le monde des émotions, on ne perçoit pas nécessairement les choses telles qu'elles sont. Et sans ramener cela nécessairement à un enjeu de mort et de tout ce qui va autour de cela, ça peut être une leçon de vie très intéressante par rapport à nous. C'est-à-dire être capable aussi à l'image d'Abraham de savoir dire à voix haute qui est la personne qui est en face de nous, prendre la mesure de qui elle est réellement, parce que c'est cela au fond qui est le plus important dans un monde de relations, et que chacune et chacun d'entre nous soit capable de s'interroger sur « mais dans quelle période de vie suis-je ? » Qu'est-ce que je dois faire à cet instant-là? Il m'arrive, même relativement souvent, d'être confronté à des jeunes et de leur dire, mais au fond, vous êtes dans une période de vie dans laquelle eh bien, la chose la plus extraordinaire dont vous disposez, c'est quoi? C'est d'un matériau qui s'appelle du temps. Du temps, et avec ce temps-là, vous pouvez construire des choses incroyables, des choses merveilleuses, savoir prendre la mesure du moment de vie dans lequel on est et à ce moment-là, construire pleinement ce que l'on doit y construire, ne pas chercher à être dans des recherches du passé, et encore moins dans des projections vers le futur, mais savoir exploiter le zman, l'instant dans lequel nous sommes, l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, de la jeunesse, de l'adolescence, et puis par la suite toutes les étapes pour arriver à cette plénitude que représente Sarah.
Eh bien, on va essayer, plénitude. Bah, c'est par exemple un très bon mot à utiliser pour le soir de Shabbat. Je vous remercie d'avoir introduit justement ce Shabbat avec ces belles paroles. Merci Ravelli Lemel. Bonsoir à vous.
Bonsoir et Shabbat Shalom et Shavuot à tout le monde.
Et on part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai. Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem.
Alors comme on dit, absolument, comme on dit.
Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent avant Shabbat.
Voilà, Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi, notamment sur Facebook, et Shavuot Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir. Alors, Rav Mordechai Biton, vous êtes fait une réflexion que vous allez maintenant partager avec nous. C'est qu'il faut, je crois, 60 versets, je ne sais pas combien exactement, vous avez donné le chiffre exact, pour nous expliquer comment on fait un chidour. Bref, énormément d'explications, énormément de signes, énormément d'indications et d'enseignements. Comment on se marie, en fait?
Absolument. Alors d'abord, avant toute chose, je voudrais commencer l'émission en m'excusant auprès des auditrices et des auditeurs, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de la Aquila Dithraque, qu'on traduit en français par le Sacrifice Dithraque. C'est pas tout à fait de ma bonne traduction. Mais j'ai fait une erreur, j'ai cité un commentaire en disant que Maïmonide, Rambam, donc, parlait de cet événement comme étant une espèce de songe. Et puis j'ai écarté, j'ai dit ça au coin d'une phrase. Cette indication était fausse. Maïmonide dit ça, mais il le dit tout à fait... à un autre endroit, il le dit au sujet de la rencontre entre les malachim, les anges et Avraham, donc au début de la paracha. C'était au détour d'une phrase et dans la rapidité de l'enregistrement. Et parfois, il m'est arrivé que ma langue fourche et que j'attribue certaines citations au mauvais endroit. Donc, je m'en excuse auprès des éditrices et des auditeurs et je ne veux pas être mégalépanim batorah chez l'autre à l'achat, dire des choses fausses sur la Torah. Maïmonide rapporte ce point-là au sujet de la rencontre entre Avraham et les trois anges. Ceci étant dit, allons sur notre paracha Chaye Sarah. Effectivement, 67 versets pour nous expliquer un chidour. La première fois qu'on parle de mariage dans la Torah, enfin du moins de la relation entre un homme et sa femme, on nous dit dans Bereshit, Adken yazov ishetaviz vetimo vedavek beishto vayul besarecha. L'homme va abandonner père et mère, s'unir avec sa femme, et ils vont former une seule chair. Ce premier verset là-bas nous dit finalement que l'homme, pour qu'il puisse se marier en un verset, mais pour qu'un homme puisse se marier, réussir son mariage, il doit être capable de savoir à quelle distance et dans quelle nature il a établi un lien avec ses parents. C'est-à-dire, est-ce que finalement il a une autonomie psycho-fonctionnelle, on va dire? Est-ce qu'il a une certaine autonomie? Est-ce qu'il a coupé le cordon ombilical? Quelle est la nature, quelle est la clarté du rapport qu'il entretient avec sa cellule familiale? C'est tout à fait fondamental. Ça n'est pas une question qui se tranche en une heure, mais c'est une question importante. Avant de se marier, on doit être capable, chaque homme doit être capable, parce qu'il va... il va se marier, fonder une famille, il va emmener cette famille dans un projet, il va être capable de se poser la question de savoir si finalement il a une certaine autonomie, on va dire psycho-affective, comme on dirait en français. Ça, c'est le premier verset. Mais ici, dans cette paracha, 67 versets pour nous expliquer comment Eliezer va choisir une femme pour Yitzhak. Et en fait, cette paracha, c'est un peu une matrice des Shidurim. C'est un peu une matrice de, finalement, de points, comment est-ce qu'on construit son couple. Alors, il nous est dit ici que, par exemple, Eliezer va tester Rivka sur son chesed. Il va la tester sur sa bonté, d'accord? Et finalement, il la teste sur sa bonté, mais finalement, cette bonté, ce point-là, ce chesed, c'est un point fondamental, parce que c'est un point qui concerne aussi, en fait, le mari et la femme. Est-ce que le mari et la femme sont capables de donner? Est-ce qu'ils sont capables de se donner l'un à l'autre? Et notamment, dans les Ilchot Ishut, dans les lois concernant donc les relations homme-femme et le mariage, la vie conjugale, Rambam, Maïmonide, donc rapporte que le couple tient entre autres sur le kavod, qu'on traduit par le respect que le mari et la femme doivent se donner l'un à l'autre. Cette traduction est une fausse traduction, comme toutes les traductions sont une trahison. Le respect dont on parle ici, le kavod dont on parle ici, c'est la légitimité. Et au fond, quand on dit que le couple est basé sur le chesed, c'est à tous les étages. Évidemment, ceux qui croient encore que le chesed, c'est de donner un coup de main à la maison et que c'est une immense performance de donner un coup de main à la maison, c'est des gens qui vivent au Yémen il y a 20 000 ans. C'est tout à fait normal de donner un coup de main à la maison et d'être là et d'être associé dans les tâches ménagères. C'est vraiment la moindre des choses. D'accord? C'est pas de ça vraiment. Donc, ça, c'est la base. Évidemment que si cette chose n'est pas arrivée, c'est un problème. Mais le chesed dont on parle ici, c'est aussi finalement, c'est l'implication physique. C'est vrai, mais c'est aussi une implication émotionnelle. Est-ce que je suis capable de donner de la légitimité aux émotions de l'autre, au vécu de l'autre, de ne pas le juger, de ne pas le condamner, de ne pas l'avilir, parce que ce vécu, finalement, ne correspond pas à mes valeurs. C'est une forme de chesed. Le couple est basé sur le chesed, et Eliezer va d'abord tester Rivka sur le chesed. Et la femme, effectivement, la femme juive, est testée sur son chesed. Mais l'homme juif aussi est testé sur son chesed. Là, on parle d'Eliezer qui choisit une femme pour Rivka, mais on parle aussi de l'implication de l'homme dans ce point-là, qui est un point fondamental, qui s'appelle le chesed. Premièrement. Deuxième point, la famille. Alors, c'est vrai qu'elle vient d'une famille un petit peu étonnante, hein. Lavan, Betuel, c'est pas les meilleurs beaux-frères et c'est pas les meilleurs beaux-pères dont on aurait rêvé. Mais là, ici, il y a un point aussi qui est tout à fait actuel, je pense. Finalement, tout est possible. Le monde dans lequel on vit est un monde du possible. Rivka, c'est une épine parmi les ronces. Je crois que c'est très important aujourd'hui de comprendre que, c'est vrai, le mariage, c'est une affaire socioculturelle, mais c'est d'abord une affaire qui consiste à regarder le potentiel de l'individu. Rivka, si la Torah nous montre que les avot ont germé à partir d'endroits qui étaient des endroits très improbables pour la spiritualité, Abraham, c'était le fils du Ikea des idoles. C'était le vendeur international des idoles. Elle, elle vient d'une famille complètement dépravée, vicieuse, etc. Et malgré tout, ils ont germé. Et là, ce qui nous aide également, c'est que ce qu'il faut savoir regarder, c'est effectivement comment un individu se comporte. Comment est-ce qu'un individu est capable, finalement, d'interagir avec son milieu familial, mais comment est-ce qu'il est capable aussi de développer un certain potentiel. Quel est son potentiel? Il faut regarder comment un individu se comporte. Et là, en voyant son chesed, elle voit que, il voit Eliezer que finalement, elle a rompu avec le vice de son milieu. Et ça, c'est un point qui est important aussi pour construire son mariage. On ne peut pas juger, finalement, de la famille, mais ce qu'on doit regarder, finalement, c'est aussi comment l'individu interagit avec sa famille. Si c'est une bonne famille, est-ce qu'il en prend les bonnes choses? Mais si c'est une famille de gens qui ont vraiment des très mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, est-ce qu'il est capable, ben, finalement, de s'en détacher? C'est un peu ce qui se passe avec Sefka. Dernier point, il y a plusieurs points à citer, mais c'est un des points importants. Qu'est-ce qui est écrit à la fin, à la fin, à la fin, à la fin de cette histoire, au 67e verset? D'accord? Lorsque Yitzhak, donc, épouse Rivka, il l'amène dans sa tente, d'accord, et là, elle est sa femme et il l'aime. Alors ça, c'est très intéressant parce que il n'est pas écrit qu'il va l'aimer et qu'elle va devenir sa femme. Il est écrit qu'elle devient sa femme et il va l'aimer. Et là, on a une des définitions les plus extraordinaires de ce qu'est l'amour dans la Torah. L'amour, c'est d'abord l'engagement. Je m'excuse de dire un gros mot, hein, aujourd'hui, c'est affreux. Comment vous parlez d'engagement, mes tantes, monsieur le rabbin? Enfin, l'engagement, vous rigolez. Mais non, mais justement, l'amour, c'est finalement cette capacité que j'ai de rencontrer quelqu'un avec qui je vais bâtir un projet. On est d'accord, on a des valeurs en commun. Ça, c'est la première chose. On voit dans cette paracha, il y a des valeurs partagées. Il y a des projets partagés, d'accord? Ça, ça paraît notamment dans le Midrash, d'accord? Et ça, elle est d'accord pour le projet d'Eliezer. Elle est d'accord de devenir la femme donc de Yitzhak, donc de participer à la construction du peuple juif. Il y a un projet commun, il y a des valeurs communes, il y a des midotes et des traits de caractère en commun. Et donc, il y a un engagement. Et une fois que cet engagement, il est scellé par une union, il y a quelque chose qui va se construire qui s'appelle l'amour. Beaucoup de gens, je crois, confondent encore aujourd'hui le plaisir et l'amour. C'est deux choses complètement différentes. L'amour, c'est quelque chose qui va amener un immense plaisir pour des individus qui s'engagent l'un envers l'autre et qui construisent ensemble et qui se battent ensemble, d'abord contre eux-mêmes, contre leurs mauvais traits de caractère, et qui se battent pour donner de la valeur à l'autre, donner de la légitimité à l'autre. C'est un très grand combat, c'est le combat de la vie, c'est le combat de l'unité dans le couple. Ce combat, il amène l'unité au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Il amène l'amour. L'amour, nous dit le Maharal, Ahava, c'est valeur numérique, Echad, 1. Et pour que les individus puissent faire 1, il faut qu'ils soient capables de s'engager, de se légitimer, de se pardonner, de se réunir, de se comprendre, de partager ensemble des choses qui ne sont pas forcément communes au niveau des midotes, au niveau des traitateurs, mais malgré tout, d'arriver à se pardonner. Et là, c'est un trajet qui est absolument extraordinaire. La Torah nous dit ici, en 67 versets, finalement, un trajet qui est un trajet du bonheur, d'accord, qui est finalement un trajet de l'idéal, mais qui va passer par un travail, par un combat, parce que la réussite d'un couple, c'est un combat. C'est un combat d'abord contre soi-même, et c'est aussi évidemment des milliers de moments partagés dans le bonheur avec des valeurs communes. Donc c'est un peu ce qui émerge de cette paracha, c'est un grand message d'optimisme ici, parce qu'elle nous, finalement, elle nous explique comment des individus qui, vous voyez, vous regardez Yitzhak, vous dites, mais comment Yitzhak et Rivka pouvaient se rencontrer? C'est le fils du prince de Dieu, et elle, c'est la fille de l'homme dépravé, du vicieux, de l'homme le plus vicieux du Proche-Orient. Ils ont aucune chance de se rencontrer. Non. Hachem fait des évoluimes. Hachem réunit les gens. Et Hachem fait que des gens qui ont des projets communs à l'intérieur, qui ont des vibrations intérieures communes, et bien ces gens-là, ils se rencontrent et ils construisent. À une seule condition. C'est qu'ils soient capables de donner de la légitimité, de se pardonner, et d'être capables d'avancer. Dernier point, le couple, c'est un lieu de simcha, un lieu de joie, si on le veut. Alors, le mot simcha, c'est intéressant parce que quand on décompose, ça fait shemacha, qui a effacé. La condition de la joie, c'est d'être capable de pardonner et d'effacer. Et la condition, c'est la condition numéro un. Et donc, effectivement, il faut développer cette capacité d'empathie. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé pour tous ceux qui sont au cœur de conflits ou de tensions, évidemment, ceux-là peuvent consulter. Ils ont aujourd'hui beaucoup de gens qui peuvent s'occuper d'eux. Mais enfin, qu'ils ne perdent pas espoir, on peut toujours construire, on peut toujours éliminer un couple. Voilà, Shabbat Shalom.
Eh bien, on va essayer de s'y tenir. Et vous ne pouvez pas savoir comment... je ne sais pas, je vous entendais dire c'est un combat d'abord contre soi-même et tout. Je dis oui, mais c'est aussi savoir lâcher de temps en temps un couple. Et vous terminez votre drachat en disant mais il faut aussi savoir quelque part lâcher, quoi. C'est ça que vous dites. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Excellente soirée à vous. Et comme on a dit il y a une minute, ou bien passez un bon Shabbat ou une bonne semaine. Bonsoir à vous. Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadret. Bonsoir Maria Chadret.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir, Shavua Tov, Shabbat Shalom, comme on veut, le jour où on écoute cette émission. En tout cas, bonsoir à vous. Toujours un plaisir de vous retrouver. On apprend plein de choses et on va parler de Chaye Sara, évidemment. Alors déjà, vous avez remarqué une chose que je n'avais pas vue, qui est que Chaye Sara, c'est la seule paracha qui porte le nom d'une femme. Donc réflexion intéressante. Et alors là, par contre, bon, on en parle plus souvent. C'est que ça s'appelle donc la vie de Sara, et ça parle en fait, ça commence immédiatement avec la mort de Sara. Mais bien sûr que, en fait, on peut comprendre aussi qu'elle a été, comment dire, le sens de la vie de Sara, peut-être la quintessence de la vie de Sara, et c'est de ça que vous voulez nous parler ce soir.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement, la mort de Sara qui ouvre cette paracha, c'est l'aboutissement de l'existence entière de Sara. Et en réalité, ce qu'on va voir, c'est que cet aboutissement va nous définir réellement qu'est-ce qu'était le contenu de la vie de Sara. Puisque c'est le titre de la paracha, c'est qu'on va trouver le contenu de la vie de Sara dans cette paracha. Et en réalité, on va vraiment le trouver, puisque ça s'ouvre immédiatement avec le désir absolu d'Abraham d'acquérir une parcelle de champ, absolument, cette fameuse parcelle dans laquelle se trouve la grotte de Marpella, la grotte, je vais dire double littéralement, hein, puisque c'est la traduction du mot Marpella, la grotte double, qu'il va acheter à prix d'or à Ephron, propriétaire de ce lopin de terre. Alors, ce qui est très étrange, c'est que le Midrash se fait l'écho dans le texte des Proverbes, Michelet, écrit par le roi Salomon. Vous savez que le 31e chapitre, à la fin du livre des Proverbes, on a la plus belle chanson d'amour écrite pour une femme, qui est le texte de Eshet Ra'il. Et nous savons qu'à l'origine, le premier à avoir écrit ce texte, finalement, c'est Abraham qui l'a écrit en tant qu'oraison funèbre sur son épouse Sarah. Donc, nous sommes dans la paracha de ce texte de l'oraison qui est dite par Abraham en l'honneur de Sarah. Et le Midrash sur Michelet, donc sur le 31e chapitre de Michelet, va prendre un verset de ce texte d'Eshet Ra'il. Vous savez qu'il est écrit selon l'ordre alphabétique. Et donc, le 7e verset, le verset Zayin, donc qui commence par Zamema, Zamema Sade Vatikareu, ce qui veut dire elle a désiré absolument un champ et elle a réussi à l'acquérir. Alors de qui on parle ? On parle de Sarah. Et que dit-on ? Eh bien, on dit le Midrash, que Sarah a absolument voulu acquérir le champ de Marpella, le fameux champ que l'on voit Abraham acquérir au début de la paracha. Alors, ce n'est pas une erreur du Midrash. Le Midrash ici veut nous dire que si Abraham a réussi dans sa négociation pour obtenir ce champ précisément, c'est parce que quelqu'un, en amont, le souhaitait absolument et a réussi à acquérir, pour ainsi dire, le mérite d'y être enterré. Et c'est Sarah qui a souhaité tout au long de sa vie être à la hauteur de ce champ. Alors qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur de ce champ ? Pourquoi vouloir absolument tel endroit plutôt qu'un autre ? Alors ce champ est spécial, cette grotte plutôt, hein, ça s'appelle la Mehara, la grotte de Marpella, est très spéciale. Je voudrais citer un texte du Shami Shmuel. Le Shami Shmuel est un grand commentateur de la Chassidoute, il était du XVIIIe siècle, il était le petit-fils du rabbi de Kotsk. Et le Shami Shmuel reprend ce midrash-là sur Zamema Sadeh, elle a désiré ce champ. Et il nous dit la chose suivante, que finalement, si on devait résumer la vie de Sarah, eh bien on pourrait en effet la résumer au fait que tout au long de son existence, ce qu'elle a souhaité, c'est être à la hauteur de cet endroit. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial cet endroit ? Eh bien déjà, la particularité, on la voit dans son nom, Ha-Marpella. Donc le mot Marpel, ça veut dire dédoublé. Et il y a un « hé » avant et un « hé » après. Donc, c'est un caveau de dédoublement avec un double « hé », la lettre « hé ». Et là, le Shami Shmuel reprend une pensée du Harizal où il parle du double hé. On connaît bien cette notion de double hé quand on a l'oreille avertie. Eh bien, on se rend immédiatement compte qu'un double hé avec en plus un mot double à l'intérieur, c'est-à-dire le mot marpel dont la traduction littérale veut dire double, donc j'ai un double hé avec le mot double à l'intérieur, eh bien, ça fait immédiatement écho au double hé du tétragramme du nom divin. Le nom divin, c'est donc bien sûr le petit yud au début, puis le hé, puis un vav, puis un hé. Il y a bien un double hé. Quelle est la signification ésotérique de ce double hé? Eh bien, le premier hé fait référence. Le hé, il faut savoir que toutes les lettres de l'alphabet ont une évocation d'élément concret de la création du monde. Et le hé, justement, vient évoquer la création d'un monde matériel qui contient du spirituel, puisque le hé, c'est un demi-cadre, pour ainsi dire, avec à l'intérieur une petite goutte, le yud, qui vient s'insérer à l'intérieur du cadre du hé. Donc, le hé va souvent symboliser la construction d'un monde, le monde lui-même. Et donc, le double hé du nom divin, c'est un hé supérieur qui correspond au monde supérieur, dont nous n'avons aucun accès. Et le deuxième hé de la fin du tétragramme, c'est le monde inférieur que nous connaissons bien, palpable, identifiable. Et donc, ce double hé dans le mot Hamarpela, la grotte double, viendrait signifier que nous sommes précisément dans un lieu de connexion entre monde supérieur et monde inférieur. Le hé d'en haut, le hé d'en bas, ou dit autrement, le trait d'union entre le haut et le bas. Et alors le Shem Ishmael continue et dit, il y a d'ailleurs, sachez-le, dans cette grotte, un pétard, une ouverture, une porte. Et de la même façon qu'une porte, eh bien, se trouve à la limite entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, la porte qui se trouve dans le caveau de Marpella est le lieu de la limite entre notre monde, que nous connaissons bien, et le Gan Eden. Ce serait l'endroit de l'ascension vers le Gan Eden. Ça serait un endroit de connexion avec en haut. Alors, pour être capable d'intégrer cet endroit exceptionnel, où on sait d'autre part par le Midrash que déjà Adam et Ève ont été enterrés là-bas, eh bien, pour y être apte, pour ainsi dire, il faut avoir eu une vie en adéquation avec ce symbole-là du dédoublement, du double hé. Et d'ailleurs, Rashi dit, elle s'appelle double aussi parce que les personnes qui sont enterrées là-bas ont un double salaire. Sraro kafoul ou mechoupal, un double salaire, comme pour un double mérite, comme pour dire ce sont des personnes doubles, ce sont des personnes à la fois qui ont un mérite, parce que le mérite de leurs actions ici, mais un mérite qui est lié à un monde que nous ne connaissons pas, au monde à venir, au monde de l'infini, au monde de la transcendance. Eh bien, Sarah, toute sa vie, Zamema Sadeh, elle a souhaité ce chant, c'est-à-dire qu'elle a tout fait pour être, justement, pour incarner ce trait d'union entre le haut et le bas. Alors, si on s'interroge, mais comment a-t-elle fait? C'est certainement la chose la plus difficile au monde de pouvoir créer ce trait d'union, surtout quand on se souvient que l'ouverture de la Torah, le premier verset de la Torah nous présente le haut et le bas comme deux entités qui n'ont rien à voir ensemble, le ciel et la terre. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a le monde que nous connaissons, le monde où nous travaillons, le monde où nous œuvrons, le monde où nous palpons, où nous touchons, nous sentons, un monde que l'on connaît bien, et puis un monde à venir, un monde qu'on imagine, un monde spirituel, le monde d'après. Bien, comment faire? Comment faire pour créer ce trait d'union dans un monde qui est divisé entre le haut et le bas? Eh bien, Sarah Imenu, si on se souvient bien, la toute première fois qu'elle nous a été présentée, c'était à la fin, je vous ramène en arrière, à la fin de Noar, juste avant les lettres Lech Lecha et L'Artzecha, pars vers ton pays. La Torah nous présente le premier patriarche, la première matriarche, et en nous la présentant, il y a une particularité du texte, c'est qu'il nous la présente comme étant Sarah, bien sûr, mais on nous présente aussi sa deuxième identité, Iska. Elle a un autre nom, Sarah. Sarah, c'est son nom quand on l'appelle en tant qu'épouse d'Abraham, mais en tant qu'individu singulier et différencié d'Abraham, c'est-à-dire dans sa généalogie propre, en tant que fille de son père, fille de Haran, là, elle est nommée Iska. Alors, pourquoi Iska? Mais c'est exactement ce principe de trait d'union. Rachid là-bas dit que Iska vient du mot Socha, Samer Kafhe, qui veut dire contempler. C'est-à-dire qu'elle est d'Hirashi dans un même souffle. Elle est tour à tour à la fois contemplée, objet de contemplation, parce que tout le monde la contemple pour sa grande beauté. On se souvient à quel point Sarah est belle. Et elle contemple, elle est sujet de contemplation, elle contemple Dieu par prophétie, et les Chachamim nous disent, le Kli Yatar notamment, qu'elle est supérieure à Avraham en niveau de prophétie, c'est-à-dire en niveau de capacité, comment le dire, à notre petit niveau, à nous justement, en capacité de lien avec la transcendance. Elle est donc contemplée et elle est contemplatrice. Et donc, par transitivité, on pourrait peut-être même dire que ceux qui la contemplent voient sur elle tel un miroir ce que elle contemple, et elle contemple les mondes supérieurs. Autrement dit, je vais le dire de façon beaucoup plus simple, Sarah incarne pour nous toutes, des milliers d'années après, celle qui n'a pas eu besoin de choisir son camp entre spiritualité et monde matériel et beauté, pour ainsi dire. Elle est celle vraiment qui a su garder les pieds sur terre, qui a su être une femme accessible, présente, en lien avec ses contemporaines, qui enseigne la Torah, qui reçoit des invités, qui œuvre, et une femme extrêmement contemplatrice de l'Esprit divin. Et ainsi, elle nous remet au clair l'idée qui nous arrive du monde occidental et même du monde d'Extrême-Orient, qu'on aurait, quand on veut être spirituel, qu'on aurait à choisir notre camp et qu'il faudrait faire un choix, un renoncement en tout cas. Si on veut toucher le ciel, il faudrait abandonner une forme de vie sur terre. Eh bien, Sarah incarne ce lien-là, ce trait d'union entre la terre et le ciel. Elle a bien les pieds sur terre, mais elle passe son temps à toucher le ciel et même à prendre des bouts de ciel, à les amener sur terre et à œuvrer pour que ses contemporains, ses contemporaines puissent également voir ce ciel qu'elle contemple. Et donc, en effet, on comprend ce midrash Zamema Sadeh Vatikare, où elle veut ce champ et elle va l'obtenir du fait de l'œuvre de sa vie. Toute l'œuvre de sa vie a été de pouvoir créer ce trait d'union extraordinaire entre le ciel et la terre, et à nous montrer un chemin vers le ciel tout en restant une personne absolument sur terre. Donc, c'est tout l'épisode de l'achat du champ, ce champ qui consiste en le ribour, le lien, la connexion entre ciel et terre, c'est vraiment l'œuvre de la vie de Sarah. Et puis, on va encore parler de Sarah une dernière fois dans la paracha. Après son enterrement, elle va encore être évoquée une fois à l'occasion du mariage d'Yitzhak, comme si elle était là sans être là. C'est-à-dire que le texte va créer une forme de lien virtuel entre Rivka et Sarah, qui ne se sont pourtant jamais rencontrés. Mais Rivka vient et rentre dans la famille d'Abraham, et elle est accueillie par Yitzhak, son mari, son jeune mari, et elle est le verset qui nous raconte qu'elle est accueillie. Parle de Sarah, il l'amène dans la maison de Sarah sa mère. Alors Rachid nous dit non, c'est pas la maison de Sarah sa mère, mais c'est une maison qui avait les mêmes emblèmes que ceux de Sarah sa mère, à savoir les fameux trois signes de la maison juive, qui sont, comme nous le savons bien, la challah, le mikvé et bien sûr l'allumage des bougies de Shabbat. Et à bien y réfléchir, on voit que ces trois éléments-là, ces trois emblèmes juifs de la maison juive, comporte exactement l'élément dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire la connexion entre le haut et le bas. Parce que les bougies de Shabbat, eh bien, c'est ce moment de spiritualité qui vient et qui pénètre nos maisons, ce moment où on allume une flamme, comme pour dire que toutes les personnes qui partagent notre vie dans ce foyer sont habitées d'une lumière, sont habitées d'une flamme, d'une étincelle divine, et à nous de continuer à voir l'intériorité de ceux qui sont autour de nous. Et puis, la challah, c'est bien sûr la matière, c'est bien sûr la consommation, le monde de la nourriture. Donc, voilà deux extrêmes, le pain, on consomme, la lumière, l'intériorité, et ce trait d'union. Ce que Rachid appelle la nuage, la nuée au-dessus de la tente de Sarah, qui n'est rien d'autre que de la pluie qui vient représenter le mikvé, et le mikvé qui est ce moment justement d'union entre corps et âme. C'est-à-dire qu'il y a un lien intellectuel, émotionnel, et puis il y a également un lien corporel. Donc la maison, c'est cet endroit-là, c'est ce lieu du trait d'union entre le ciel et la terre, et finalement, elle incarne cela, Sarah, elle pénètre dans le sadé de Marpella, et en réalité, elle continue à œuvrer pour nous enseigner, à nous, quelques 4000 ans après sa disparition, qu'il faut, dans nos maisons aussi, avoir ce que j'appelle une maison connectée, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel, et amener des bouts de ciel dans nos vies pour avoir des vies pleines de sens, pleines d'intériorité, des vies pénétrantes, et pour pouvoir partager ensemble des semaines, des Shabbatot, remplies à la fois de réalité matérielle, mais aussi d'un contenu spirituel.
Être chassid, en fait, Sarah. Pardon, excusez-moi.
Oui, le Shami Shmuel est issu de la chassidoute.
Mais oui, mais j'entends souvent de nos amis Lubavitch dire, paraît-il, puisque je ne suis pas érudit, mais que le Rabbi Lubavitch insistait énormément sur cette idée. Vraiment, garder les pieds sur terre, faites, travaillez même, avancez, construisez et gardez la tête dans le spirituel, je crois.
Absolument, absolument.
Ah oui, alors, et j'ai bien compris.
Si je peux me permettre, cher Bernard, une toute petite annonce.
Ouais.
J'ai l'immense plaisir d'éditer chaque semaine maintenant un feuillet sur la paracha, alors qui reprend un petit peu les idées que nous évoquons ensemble, mais en version plus longue, en version une heure.
Ouais.
Et je le mets par écrit, enfin, il y a une personne qui se charge de le mettre par écrit. Il est envoyé pour l'instant à toutes les personnes qui le veulent, bien sûr, gratuitement, version PDF imprimable pour Shabbat, pour lire Shabbat, et avec une possibilité de dédicacer ce feuillet pour une réfoua chez les mâts, pour l'élévation de l'âme, etc. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez soit le recevoir, soit le dédicacer.
Mais oui, mais alors, qu'est-ce que vous appelez se manifester? On vous joint sur votre page Facebook peut-être?
Voilà, par Messenger, par téléphone.
Par tous les moyens. Bien sûr qu'il faut nous faire cette annonce. Et on peut également joindre la radio, on a nous aussi une page Facebook, on transmettra, notre page c'est Radio Shalom 94.8, ou nous appeler et on transmettra avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. Longue vie à cette nouvelle publication, donc tous les vendredis.
Je l'envoie tous les jeudis soirs. Les jeudis soirs, comme ça on peut l'imprimer tranquillement le vendredi et se régaler Shabbat spirituel.
Et on l'a sur la table au moment où on dit Zamema Sede Vetika Reu. On a la notice qui nous explique, attention. N'oublie pas, elle est très importante, la personne qui est en face de toi. Maria Chadré, merci. Et
merci
à la semaine prochaine. Shabbat Shalom ou Shavua Tov, selon le jour où les gens nous écoutent. Bonsoir à vous.
Bonsoir, au revoir Bernard.
Comme chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David Abendanan. Bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi, on l'a dit, on l'a répété. Et Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir. Alors on reste cependant, on va dire, collé à notre paracha et vous cherchez toujours une halakha qui pourrait correspondre à ce dont on vient de parler. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est quoi la différence entre un neder? On entend toujours, on a toujours des copains qui disent « blineder », on le dit nous-mêmes, et juré, un serment, une chevoua, comme on dit en hébreu. Alors, déjà, quel est le rapport avec la paracha? Et deuxièmement, quelle différence y a-t-il entre un neder et quand on jure et juré?
Le rapport avec la paracha, Bernard, vous l'aviez vous-même, c'est donc Avraham qui a fait jurer Eliezer lorsqu'il l'a envoyé chercher une femme pour son fils Yitzhak. On a donc cette notion de neder, de serment. Pardon?
Il lui fait jurer de ne pas marier là-bas.
Exactement.
Il lui dit, tu me ramènes quelqu'un, mais sinon tu reviens tout seul.
Exactement. Et c'est une notion qui est extrêmement importante dans la halakha, parce qu'il faut savoir que la parole a une valeur, et on va expliquer au fur et à mesure de ce cours à quel point la parole peut avoir une valeur. Alors, il existe effectivement deux notions, qui s'appellent la notion de neder et de shvoua. En français, il n'y a pas de traduction. Ça veut dire que les deux se traduiront par faire un serment, par jurer quelque chose. Mais ces deux notions font appel à deux façons de jurer. Neder, c'est lorsque je m'interdis un objet. Donc, par exemple, je m'interdis d'utiliser tel livre, je m'interdis d'utiliser telle table, je m'interdis donc un objet. Et je vois, c'est lorsque je m'engage personnellement à faire quelque chose. Je jure que j'irai là-bas, je jure que je ferai ça. Alors, alachiquement, ça change quoi? Alachiquement, ça change que quelqu'un qui ferait la jvoua donc qui jurerait, qui prendrait sur lui, par exemple, de ne pas mettre les tefilin. Donc il a fait une joie de ne pas mettre les tefilin, ça ne fonctionne pas. Étant donné que lorsque nous étions sur le Har Sinaï, sur le Mont Sinaï, nous avons tous fait la joie, nous avons pris sur nous d'accomplir les mitzvot de la Torah. En revanche, celui qui ferait le neder de ne pas utiliser une paire de tefilin en particulier, eh bien là, le neder fonctionnera. Et même s'il prend sur lui de ne pas utiliser toutes les paires de tefilin du monde, le neder fonctionnera et il faudra, on verra au fur et à mesure du cours là aussi, qu'il fasse un processus pour annuler ce neder qu'il a pris.
Alors, grosse question, est-ce qu'il est convenable de faire des nedarim? Je sais que le judaïsme, il n'aime pas bien. Il n'aime pas, parce qu'après, en général, on a du mal à respecter. Mais on peut aussi demander pourquoi on va faire un neder dans la mesure où je les accomplis toujours. Ça peut être une première question. Puis on peut se demander ensuite, qu'est-ce qu'il en est dans des situations difficiles? Est-ce qu'il y a une mitzvah aussi à prendre sur soi des choses qui sont supplémentaires?
Vous posez plusieurs questions là, Bernard. Effectivement, beaucoup, hein. Il y a dans le judaïsme, le Shulchan Aruch, dans le Yoredea, Ilchot Nedarim, les lois des Nedarim, nous dit « Al Teir Agil Benedarim, ne t'habitue pas à jurer ». Et le Shulchan Aruch rajoute « Kol Anoder Afalpi Shemekaimo Nikra Racha ». Tout celui qui prend sur lui des Nedarim, des serments qui jurent des choses, même s'il les accomplit, ça s'appelle un rachat, ça s'appelle un mécréant, et Nikra Chote rajoute au Shulchan Aruch, ça s'appelle un fauteur, même lorsqu'on les accomplit. C'est-à-dire que la halakha nous demande, même si je sais que je vais accomplir mon neder, de ne pas prendre sur nous, de ne pas faire des nedarim, de ne pas prendre sur nous des nedarim en plus. Alors, il y a des situations où, par contre, il va y avoir, on va dire, différents avis dans les décisionnaires. Autant là, dans les situations de la vie courante, de la vie de tous les jours, Shulchan Aruch nous dit de ne pas faire de neder, il ne faut pas, même si je sais que je vais l'accomplir. Autant, par exemple, dans une situation, l'oralenu, de douleur, une situation difficile où la personne prend sur lui un neder pour dire, voilà, je prends sur moi de faire telle chose pour la refouach shlema d'un tel, et il fait un neder. Dans toutes ces situations-là, il y a, par exemple, une marloquette, il faut savoir, entre les poskim. Certains pensent que c'est autorisé dans des situations pareilles. Certains pensent carrément, Tosfot pense que c'est une mitzvah dans ces situations. Et il y a d'autres avis, notamment Shita Mekoubetset et le Rajba, qui pensent que là aussi, il y a une interdiction de jurer. Il y a aussi des situations où on pourrait prendre sur nous un neder pour nous encourager à faire une mitzvah. Là, ça va être autorisé, quelqu'un qui va faire prendre sur lui le neder, bien que il y a normalement déjà la joie, de, par exemple, depuis le don de la Torah, on a pris sur nous de mettre les tefilines tous les jours. Eh bien, quelqu'un qui se rajouterait en plus de sur lui le serment, de les mettre, eh bien, ce serment qu'il prendrait en plus, ça va être autorisé, ce sera même encouragé, parce que grâce à ça, ça lui permettra d'accomplir avec plus de conviction et de façon plus régulière les mitzvot que de toutes les façons, il est déjà obligé d'accomplir.
Est-ce qu'il y a des nedarim qui sont invalidés automatiques? Ou bien le contraire, des nedarim qui se valident automatiquement?
Oui, il y a des nedarim qui sont invalidés automatiquement. La Mishnah nous en cite quatre sortes. Par exemple, les nedarim qui sont faits dans le cadre d'une négociation. Ça veut dire quelqu'un qui sera en train d'acheter un objet et il jure, ben je le paierai, je jure que je ne le paierai pas plus que tel prix. Ou le vendeur lui jure, je jure que je ne te le vendrai pas plus que tel prix. Chachamim considère que ce ne sont pas des nedarim, c'est de la négociation. Et il n'y a pas besoin de faire atarat nedarim, d'annuler dessus. Quelqu'un qui fait des nedarim ridicules. La Gemara rapporte, j'ai vu un chameau qui volait ou des choses comme ça. Il y a des situations aussi où quelqu'un pourrait faire un neder parce qu'il est forcé à le faire. Et vous savez que je vous invite à regarder, à rechercher historiquement, il y avait des situations comme ça, même en France, hein, où on forçait les juifs à faire des nedarim dans certains cas. Eh bien, ce neder-là, il n'a pas de valeur. Et donc, dans ces situations-là, le neder n'a pas de valeur, il n'y a pas besoin de l'annuler. En revanche, d'un autre côté, il faut savoir que lorsqu'on a un comportement de mitzvah, un comportement souhaitable, un comportement de, on va dire, qui va dans le sens même de la chumra, qui va dans le sens d'embellir les mitzvot, et qu'on ne dit pas blineder, eh bien une fois qu'on a pris l'habitude d'avoir ce comportement devient automatiquement un neder. À partir de ce moment-là, la personne va devoir faire atarat nedarim, en fait, annuler son neder, puisqu'elle a pris sur lui un neder, sur elle un neder, sans même le savoir. Donc il faut savoir que quand on prend une habitude de mitzvah, prendre sur soi, de toujours dire blineder, je prends cette habitude blineder sans faire de neder, sinon le neder est automatique, systématique.
Je me souviens, je crois hein, que si je dis je fais le neder de ne pas circoncire mon fils, c'est automatiquement invalidé parce que non, tu circonciras ton fils et point barre. Mais je ne suis pas
rare. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a appelé au début, la jvoua, donc en fait ce n'est pas un neder, c'est une jvoua puisque c'est sur une action. Et cette voie-là, elle n'est pas validée parce que, effectivement, depuis le Mont Sinaï, on avait déjà la voie inverse.
Ouais, fait le contraire. Tu circonciras ton fils. Allez, on va être très juif de France. Bémet sur ma vie, sur la vie de je ne sais pas quoi. Sur, c'est un EDR et surtout, est-ce que c'est autorisé? Parce que, bon, voilà, c'est juste, je ne sais pas, c'est souriant, quoi.
Oui, alors c'est souriant, ça rentre dans le champ lexical habituel des promesses. Et on pourra analyser, en fait, si vous voulez, on va analyser rapidement chacun de ces termes. Béhémet, c'est un terme qui est problématique, puisque d'après certains, Béhémet, c'est une façon de jurer. Et là, on a expliqué qu'il ne faut pas jurer pour rien. Sur ma vie, Rav Ovadia Yossef rapporte que c'est aussi, ça pourrait être grave, parce que ta vie ne t'appartient pas. À l'intérieur de toi-même, il y a une neshama. Cette neshama, c'est une partie de Dieu. Donc, quelque part, est-ce que ce ne serait pas comme si tu jurais un petit peu sur Dieu? Donc, c'est aussi un terme à éviter. Après, sur le kotel, sur la mezouza, tout ça, ce sont des termes qui ne veulent rien dire halakhiquement, qui n'ont aucun sens. Et dès lors que l'on mêle les parents dans le serment, sur la vie de, et qu'on mentionne le nom d'un des parents derrière, là, on a un problème de kibboud avaim, c'est ramené dans la halakha, et donc, du coup, c'est interdit.
C'est marrant, parce que, enfin, je dis marrant. Je croyais, moi, que dire sur la Torah, c'est interdit, parce que c'est pas, on s'amuse pas avec des sujets pareils. Mais bon, vous
alors, j'ai pas dit
pas
sur la Torah.
Ah.
Vous avez bien fait attention, j'ai dit voilà, si on prend quelqu'un qui dirait sur la mezouza, ouais. Sur des objets, mais là encore, il ne faudrait pas qu'il l'attrape en main, parce que sinon il rentre dans des problèmes qui sont beaucoup plus, problématiques.
D'accord. J'ai fait un éder. Ou alors, je suis dans un doute, que dois-je faire pour m'en sortir?
Alors, le temps imparti nous étant compté, on ne va pas rentrer maintenant dans la halakhot de comment s'en sortir, d'autant plus que ce sont des halakhot compliquées. Mais en gros, allez voir un rave. Qui s'entourera de deux autres personnes qui s'y connaissent en halakha, deux autres rabbanim, et il y a une procédure à faire lorsque quelqu'un a fait un éder et qu'il ne peut pas l'accomplir ou qu'il doit l'annuler. Le rav se chargera de mettre en place cette procédure, mais automatiquement, lorsqu'on a une question de nédarim, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes et graves, prendre le réflexe d'appeler un rav.
Très bien. Il se trouve que moi, je l'ai fait une fois à Teret Nedarim. Et c'est vrai qu'il y a un vrai le rav, puisque si c'est un rave sérieux, en l'occurrence c'était Rav Rosenberg Zatzal, il te pose des questions, hein, il te pose pas comme ça. En fait, j'avais fait le déder de rester debout pendant Kaddish après le décès de mon
grand
papa
classique.
Après le
grand
ah ouais, vous voyez, après le décès de mon papa, et tout d'un coup je veux, bon voilà, ça y est, le c'est fait plusieurs années, et voilà, Rav Rosenberg avec deux témoins, il fait des choses, c'est sérieux, hein.
Alors, sachez déjà, Bernard, que ce n'était pas deux témoins, c'était deux dayanim dans l'absolu. Enfin, en tout cas, ils avaient le rôle de juge. Et que même si vous n'aviez pas fait le néder de rester debout pendant Kaddish, rien que le fait de l'avoir fait, ça veut dire de rester debout plusieurs fois pendant Kaddish sans dire le néder, eh bien, ça aurait été considéré comme un néder. Il aurait fallu passer par la case Rav.
Eh bien, sachez que c'est ce qui s'est passé. J'y avais pas pensé. Après, on m'a dit, ben maintenant, il faut que tu annules.
Rav,
ouais. On voit que je suis face à un érudit. Rav David Abendanan, merci pour ces explications, pour cet enseignement donc sur la différence entre un neder et juré, ce qu'on appelle en hébreu une shvoua. Merci à vous, bonsoir.
Bonsoir. Semaine
prochaine. Shalom leivoy naboy, im Hashem lo yishmarihi, shav shokat shoymai, im Hashem lo yivne bayis. Shalom leivoy naboy, im Hashem lo yishmarihi, shav shokat shoymai.